Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
La dernière trouvaille de la chaîne D8 pourrait s'appeler, si elle assumait son penchant putassier, Vie ma vie de vrais gens. À la place, le nom provisoire est encore Monsieur et Madame Tout le monde. C'est Le Parisien aujourd'hui en France qui a dévoilé l'information ce matin. Dans le plus grand secret, 8 élus, dont certains ont exercé des responsabilités importantes au sommet de l'État, ont accepté d'être plongés, le temps d'un tournage, dans une réalité qui n'est pas la leur. Objectif, mieux comprendre les problèmes du terrain qu'ils connaissaient peut-être sur le papier, mais auxquels ils ne s'étaient jamais vraiment confrontés auparavant, compte tenu de leur fonction et pour certains, de leur notoriété. Voilà donc Michèle Alliot-Marie en gardienne de la paix, Bernard Accoyer en docteur Doug dans un hosto et Thierry Mariani dans un fauteuil roulant. Ou comment nos élus goûtent avec émotion et étonnement, on l'imagine, au quotidien de simples citoyens de province que nous sommes. J'espère encore un communiqué de D8 qui avouerait que tout ça n'est qu'un canular. Un canular destiné à faire prendre conscience aux téléspectateurs des limites que le petit écran pourrait encore atteindre. Mais je ne suis pas sûre qu'il arrive un jour.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Dans une deuxième partie, nous aborderons la question de l'hébergement des migrants à Angers. Mais tout de suite, nous allons écouter une interview réalisée cet après-midi par téléphone par Thomas. Il a passé un coup de téléphone à Nadine Locke, responsable du centre culturel Jean Carmé à Mureigny, à propos de l'événement Les artistes de notre commune, qui aura lieu à partir de jeudi jusqu'à dimanche.
Bonjour Nadine Locke, vous êtes responsable du centre culturel Jean Carmé à Mureigny. Vous accueillerez du 30 octobre au 2 novembre 2014 un événement intitulé « Les artistes de notre commune ». C'est la 28e édition, si je ne m'abuse.
Tout à fait, bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'origine de l'événement? Est-ce qu'il s'agit d'une envie commune à l'équipe culturelle de la ville? Parce que ça fait déjà un petit moment que ça existe.
Alors, en effet, ça fait 28 ans. Donc, à l'origine, ça a été une initiative de la municipalité de l'époque de pouvoir mettre en vue toutes les productions artistiques qui étaient réalisées sur la commune. Donc par des gens qui n'étaient pas des professionnels, mais qui avaient comme hobby la peinture et la sculpture.
D'accord, alors en 28 ans, c'est devenu un événement incontournable de la ville, j'imagine, puisqu'il y a donc beaucoup de particuliers qui y participent.
Oui, alors on est resté fidèle à cette organisation, c'est-à-dire d'accueillir tous les gens qui habitent la commune ou ayant habité la commune ou qui travaillent ou ayant travaillé sur Mureigny. Et donc on leur permet de pouvoir présenter leurs œuvres et à l'occasion de les vendre si elles ne sont pas réservées. Et à cette occasion, pour justement évoluer un petit peu aussi depuis ces 28 années, on fait depuis une dizaine d'années, on invite un artiste professionnel. Et donc cette année, nous allons accueillir la Société des aquarellistes de Bretagne.
Alors voilà, je voulais revenir sur ce point justement, donc le collectif des aquarellistes de Bretagne. Comment se déroule cette collaboration entre les artistes de Mureigny et donc ses invités? Est-ce que c'est surtout un coup de cœur ou est-ce que c'est un échange entre les personnes?
Alors, c'est proposé par le comité d'organisation, qui est formé de personnes bénévoles et qui sont également artistes exposants de l'année passée. Et donc c'est sur proposition de ces gens-là et il y a un petit vote et donc la personne qui est le plus appréciée ou le collectif pour cette année est retenue donc comme invité d'honneur.
Et donc cette année, le collectif comprend combien de personnes?
Alors là, on va exposer des œuvres de 8 professionnels aquarellistes.
D'accord.
Sur une thématique autour de la mer, puisqu'on voulait mettre en avant leur titre d'aquarelliste de Bretagne.
Alors, il y aura donc des aquarelles, mais sinon, quel type d'art on pourra retrouver sur place dans le cadre de cette semaine? J'imagine que les habitants proposent beaucoup de choses.
Voilà, alors il y a deux catégories. Il y a les peintres et sculpteurs, et il y a une autre catégorie qui est les artisans d'art, avec des disciplines complètement diverses, telles que du modelage, de la couture, des maquettes, de la porcelaine, du cartonnage, voire même des loisirs créatifs comme des bijoux, etc.
Est-ce qu'il sera possible de rencontrer les exposants?
Oui, bien sûr. Oui, oui. Notamment les artisans d'art qui, eux, sont toujours près de leurs œuvres puisque tout est en vente. Voilà. Après, les peintres, ils viennent, mais c'est moins régulier leur présence.
Comment sont organisées vos journées d'exposition? Est-ce que la programmation, elle va changer en fonction des jours? Est-ce qu'on peut retrouver tous les artistes durant l'ensemble de la semaine?
Alors, on a des heures d'ouverture, hein, le jeudi et le vendredi, c'est de 14h à 19h. Et le samedi et dimanche, c'est de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. On a également une petite animation, un petit concert le samedi après-midi. Donc c'est un harpiste qui vient accompagner les visiteurs au sein de l'exposition.
Donc l'harpiste François Pernel, qui a remporté la médaille d'or du conservatoire à rayonnement régional de Reims, qui jouera donc le 1er novembre à 17h.
Voilà, c'est de 17h, 16h30, 17h.
Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur lui? Est-ce qu'il est du coin? Est-ce qu'il est de quelle formation?
François Pernel est venu à plusieurs reprises dans le cadre de la programmation culturelle. C'est un petit peu comme ça que je l'ai découvert. Et depuis, il donne également des cours à l'école de musique de Mur-et-Rigné. Donc on a toujours gardé un contact et qu'on avait plaisir à le retrouver dans le cadre de l'exposition.
Donc c'est un artiste qui passe par plusieurs univers, hein, si je ne dis pas de bêtises, que ce soit de la musique classique aussi bien que contemporaine, il y en aura à peu près pour tous les goûts.
Voilà, voire celtique aussi.
Je rappelle que l'exposition Les Artistes de notre commune aura lieu du 30 octobre au 2 novembre au centre culturel Jean Carmet à Mur-et-Rigné. L'entrée est en prix libre, c'est bien ça?
Tout à fait. Non, c'est gratuit.
D'accord, c'est gratuit.
Il y a un petit programme qui permet aussi de pouvoir noter les œuvres des artistes et un tirage au sort pour gagner une œuvre offerte par les aquarellistes de Bretagne.
Belle initiative, très bien.
Voilà.
Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire pour exposer si on est de Mur-et-Rigné, si on a habité à Mur-et-Rigné?
Ah non, bien sûr que non, puisque là le programme est bouclé. Et là, les inscriptions étaient valides jusqu'au 30 septembre dernier.
D'accord.
Donc là, on a une trentaine d'exposants. On a 17 peintres, on a 3 sculpteurs et 9 artisans d'art.
Ça fait du monde. Bon, merci pour votre participation, Nadine Locke.
Merci
et puis,
à vous.
Bonne continuation.
Merci beaucoup. Au revoir.
Vous écoutez Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers et tout de suite, vous allez entendre Eskin Didin de Somme Cété.
Fui na Bahia ver uma festa do meu Senhor do Bonfim e fiquei admirado como tinha gente assim. Bye. baiana lá na Bahia. Din din a doce cantando assim. Sim, din din, sim, din din din. Que vai de doce de amendoim. Senhor do Bom Fim, e fiquei admirado como tinha gente assim.
Skin din din, skin din din din, baiana do doce do amendoim. Skin din din, skin din din din, baiana do doce do amendoim.
A baiana lá na Bahia vendia doce cantando assim.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Vous écoutez le sous-marin sur Radio Campus Angers. Tout de suite, on va parler de la question de l'hébergement des migrants.
Il y a des matelas qui tombent du ciel. C'est un miracle qui vient d'arriver. Non, on est en train d'évacuer le squat. On va récupérer le matériel pour pouvoir le jeter d'abord. Donc on est en train de sortir le petit matériel qui restait dedans, les matelas, les affaires des grèves, des trucs comme ça.
Ça, c'était le jour de l'évacuation des squats de la rue du Port de l'Ancre. Bonsoir Bruno Manini.
Bonsoir.
Vous êtes président de la CIMAD 49, le comité intermouvement auprès des évacués, une organisation qui accueille et accompagne les migrants et les demandeurs d'asile dans ces permanence dans les procédures d'hébergement, de formation, de respect des droits. Et à ce titre, vous faites également partie de la coordination Migrants 49 qui a organisé le 15 octobre dernier une manifestation place Molière pour attirer l'attention sur la question de l'hébergement des migrants, entre autres.
Oui, effectivement. La coordination Migrants est préoccupée depuis longtemps par les conditions qui sont faites aux gens de nationalité étrangère qui sont présents sur Angers. Bon, il y a des bâtiments qui sont rue Rouchy maintenant, qui étaient avant rue Couffon, et qui, selon nous, correspondent à de la mise à l'abri éventuellement possible pour hommes seuls, et correspondent en rien à des conditions correctes, ni même légales, de mise à l'abri ou d'hébergement de publics fragiles, que sont les familles avec enfants, que sont les femmes seules ou pas seules, et que sont les mineurs isolés étrangers. Donc il y a ces publics qui sont accueillis rue Rouchy, en contradiction flagrante avec le droit, les obligations des collectivités territoriales et de l'État, et puis il y a tous ceux qui dorment dehors en plus, qui n'ont même pas accès à la rue Rouchy. Et là, donc on est sur 60 places rue Rouchy, et on est sur des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont hébergées chez des amis, qui sont à 3, 5 dans une chambre d'étudiants, ainsi de suite.
On évoquera tous ces sujets tout à l'heure. À vos côtés, Pierre-Jean Bourdon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites partie du collectif de soutien aux sans-papiers. On vous a notamment entendu lors de cette évacuation des squats de la rue du Port de l'Ancre qu'on va aborder dans cette émission. D'abord, est-ce qu'on peut dire un mot des personnes que vous accompagnez respectivement au cours de vos actions ou à la CIMAD par exemple ou, qui sont les gens que vous accompagnez ?
Ceux qui viennent nous trouver, je crois, aussi bien le collectif que la CIMAL. Bon, c'est-à-dire ceux qui sont en demande d'informations juridiques et puis plus globalement de soutien et de présence un peu chaleureuse, de présence qui ne soit pas de rejet, qui ne soit pas purement administratif et purement pousse-toi de là, quoi. Bon, donc nous accueillons, nous, des migrants qui sont certains demandeurs d'asile. Beaucoup viennent avec cette entrée dans le séjour, qui peuvent être ensuite réfugiés quand leur demande d'asile est acceptée. Et puis nous accueillons des gens qui sont déboutés, qui sont sans titre de séjour sur le territoire français, qui ne sont ni expulsés, ni régularisés, qui n'ont pas le droit de travailler. C'est ces gens pour qui la situation est la plus difficile.
On va écouter justement le témoignage de personnes qui étaient là le 15 octobre dernier, place Molière.
Volontiers.
Pour cette manifestation que la coordination migrants a organisée.
Thank you.
Moubarak est arrivé à Angers il y a 2 mois avec sa femme Makaré et son fils Mahmoud, 5 ans. Tous les trois ont fui le Soudan, puis la Libye.
Ma femme et moi, nous vivons au 115. Nous devons arriver au 115 à 21h et repartir à 6h du matin. Nous souffrons beaucoup. Nous n'avons pas à manger, pas de toit. Il fait froid. Nous avons besoin d'une maison, vous comprenez ? Nous sommes arrivés en Europe par bateau, vous savez ? Et nous avons beaucoup souffert. Et nous sommes arrivés en France. Maintenant, nous avons besoin d'une maison.
Une chorale s'est improvisée sur la place. Issam chante pendant que sa femme, Marwa, le filme avec son téléphone portable.
We are from Sudan.
Nous venons du Soudan.
Came here before 2 months.
Nous sommes arrivés le 3 août ici.
3 August, we came here.
Et pourquoi avoir choisi de venir à Angers?
And why not in Paris?
Vous savez, la première fois, nous sommes allés à Paris. Nous avons rencontré des gens qui nous ont conseillé de venir ici. Ils nous ont dit qu'il y avait plus de Soudanais ici, qu'ils pourraient nous aider.
Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici ?
Je cherche à sauver ma vie. J'ai besoin de sauver nos vies à ma femme et à moi. C'est tout. Mais depuis 2 mois que nous sommes ici, pendant seulement 20 jours, nous avons dormi au 115. Après ça, direction la rue. Tous les jours, il n'y a pas de place. Alors je vais à la rue. Qu'est-ce que je peux faire ?
Pierre-Jean Bourdon, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce reportage ? Est-ce que vous reconnaissez ce type de témoignage avec les personnes avec qui vous travaillez au sein du collectif ?
Bon, nous, ça ne nous intéresse pas trop les témoignages. Ce qui nous intéresse, c'est d'agir. D'agir pour que les conditions d'asile soient les meilleures possibles et au minimum, au moins respectent le minimum qui est obligatoire, non seulement pour la France, mais pour toute l'Europe. Qui sont définis par la directive accueil du Conseil européen. Bon, c'est pas le cas à l'heure actuelle, ça n'a jamais été le cas depuis maintenant 2007. 2007, il y a eu des restrictions budgétaires, c'était M. Guéant à l'époque. Il y a eu des réductions qui ont été vraiment catastrophiques. Ça a été 64% en ce qui concernait l'accompagnement, ça a été la régionalisation, la fameuse régionalisation. Et pour l'hébergement, ça a été 47% qui ont été coupés. Ça, c'était pour le budget de 2008, alors que 2007 était le point, mais vraiment le plus bas de la demande d'asile en France. Ça n'a pas arrêté de décroître. Contrairement à tout ce qui est raconté, ça n'a pas arrêté de décroître depuis 2000. Et ça a été le point le plus bas. Ça a remonté ensuite, c'était prévisible. Et arriva ce qui devait arriver. En 2008, il y a eu des Soudanais qui se sont retrouvés à la rue. À l'époque, c'était des Soudanais. Alors là-dessus, ben, on a commencé à saturer. Il y a des camarades qui hébergeaient chez eux pas mal de monde. Il y a même eu une amie étudiante qui avait dans son petit studio une douzaine de gars... Ça commençait à bien faire tout ça, et c'est là qu'on avait décidé de commencer à ouvrir des squats, quoi. Mais bon, la vocation de notre collectif, c'est surtout de lutter politiquement pour la régularisation de tous les sans-papiers, et d'une, mais plus largement pour la liberté de circulation et d'installation de toute personne, parce que avant d'avoir une nationalité, avant d'avoir... un État qui nous domine, Nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains qui sommes appelés à vivre sur cette petite terre en bonne entente, si on peut dire. Voilà, voilà notre problématique. Et la problématique, eh ben, c'est que là, on en était peut-être à une quinzaine de squats. Il y a des solutions alternatives, on en a proposé. Ces solutions n'ont jamais été prises en compte. Alors, non seulement il y a eu des restrictions de budget, mais en plus, le pire, c'est que les budgets disponibles, par exemple, pour l'hébergement, sont gaspillés, vraiment gaspillés en chambres d'hôtel dont les migrants ne veulent même pas. Parce que c'est, eux, ils n'en veulent pas, ils veulent se poser, ils veulent une petite vie peinarde, une petite vie tranquille pour pouvoir respirer, c'est-à-dire avoir leur coin cuisine, avoir leurs aises, et ne pas être dans la rue même en journée, parce qu'en ce moment, ils sont tous dans la rue en journée. Alors, je ne vois pas quel est l'intérêt pour l'ordre public. Il faudra que, aussi bien monsieur le préfet que monsieur le maire, s'en expliquent.
Alors, on entendra d'ailleurs monsieur le préfet tout à l'heure, je l'ai au téléphone ce matin, mais d'abord, est-ce qu'on peut faire un point sur qu'est-ce qui est proposé dans la loi, après on verra ce qui est appliqué, mais pour l'hébergement des personnes migrantes. Y a d'abord les personnes qui sont demandeurs d'asile, donc qui sont protégées. Bruno Manini, comment ça se passe pour eux ?
Tout à fait, les demandeurs d'asile, Convention de Genève 1951, les pays signataires de la Convention, dont la France, qui a choisi de signer cette Convention, qui était obligée par rien, les pays signataires s'obligent à accueillir une personne qui se déclare en demande d'asile dans des conditions de vie décentes, c'est-à-dire hébergée avec de quoi s'alimenter, de quoi se laver, de quoi se vêtir. Bon, donc ça conduit à être accueilli en principe dans les CADA, les centres d'accueil des demandeurs d'asile, bon, pendant toute la durée de la procédure, et puis à avoir l'ATA, l'allocation temporaire d'attente. Or, actuellement, ce sont environ 33%, un tiers des demandeurs d'asile qui sont accueillis en CADA, donc les deux autres tiers ne sont pas accueillis en CADA, en contradiction avec la signature de la France, avec la parole et les engagements de la France. Bon. Et puis après, les gens sont soit reconnus comme réfugiés quand leur demande d'asile est acceptée, ou alors sont déboutés du droit d'asile et expulsés ou non. Bon. Donc actuellement, il n'y a qu'un tiers des demandeurs d'asile qui sont accueillis en CADA. Il y avait dans la rue Rouchy, il y a 10 jours, il y avait 2 réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui ont leur statut de réfugiés et qui devraient accéder au logement social, qui ont des cartes de 10 ans, qui sont autorisés à travailler, qui travaillent pour la plupart et qui devraient avoir accès au logement social. Donc là, il y en avait encore 2 qui étaient en hébergement d'urgence, c'est-à-dire au 115, qui est absolument anormal aussi. Et puis après, il y a tous les déboutés sans papier, qui eux doivent être protégés, ça c'est au titre de l'action sociale, à commencer par les mineurs, c'est la responsabilité du Conseil général de protéger les enfants, c'est la responsabilité de l'État aussi de protéger les femmes seules, les familles a fortiori, les mineurs isolés étrangers rentrent dans le cas général, c'est-à-dire qu'ils devraient être protégés par l'aide sociale à l'enfance, les conseils généraux, et puis on a eu 2007 ou 2009 le droit au logement opposable, avec en principe un accès pour tous, inconditionnel, au moins à de l'hébergement, voire à du logement. Donc c'est insupportable pour les demandeurs d'asile, pour les mineurs, pour les femmes, pour les familles, et pour tout le monde. C'est illégal pour tout le monde.
Concrètement, vous parliez des CADA, donc ces centres qui accueillent les demandeurs d'asile. Il y a 290 places dans le Maine-et-Loire, c'est pas suffisant ?
La preuve que non, puisqu'il y en a une bonne partie qui sont au 115.
290 places, pas de CADA, de CADA plus UDA. Bon, il faut savoir que les
UDA... Alors UDA pour les...
Hébergements
les UDA,
d'urgence.
C'est les hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile. Je m'excuse. Bon, il faut savoir qu'en 2010, après une des nombreuses expulsions qu'on a dû subir, nous avions, et sans relogement bien sûr comme d'habitude, nous avions occupé le parvis de la mairie et nous sommes tombés pour une fois sur un préfet intelligent, Monsieur Cabane, et Monsieur Cabane avait ouvert 50 hébergements d'urgence supplémentaires à l'époque. Bon, ces 50 hébergements d'urgence, il y a longtemps qu'ils ont été grignotés carrément. Voilà la problématique. Ils devaient aller pour leur prise d'empreinte, ils devaient aller sur Nantes. Nous avions Eurodac qui est venu sur Angers. Le résultat des courses, c'est qu'il y a eu deux centres pour les Pays de Loire, il y a eu deux centres de prise d'empreinte, il y a eu Nantes et Angers. Ce qui fait que d'autres départements comme la Mayenne, comme la Sarthe, sont déficitaires au niveau des... Ils n'ont pas beaucoup de CADA, ils ont une très, très mauvaise répartition. Mais ça, c'est le problème de l'État. Qu'on ne vienne pas reprocher aux demandeurs d'asile de venir à Angers, il n'y a que là qu'ils peuvent faire prendre leurs empreintes. De même, dans la région Bretagne, il n'y a qu'à Rennes qui peuvent faire prendre leurs empreintes. C'est d'une absurdité sans nom. On se demande s'ils ne font pas exprès. Ou alors, ce n'était pas la peine qu'ils fassent des études aussi poussées que ça.
Aujourd'hui, les personnes qui étaient hébergées dans le squat de la rue du Port de l'Ancre, Pierre-Jean, ils sont où ?
Ah ben, y en a qui sont sous les ponts, il y en a d'autres qui ont trouvé pour quelques temps refuge chez des compatriotes. Mais c'est le système D et c'est très vicieux parce que ça donne à l'administration la possibilité de virer tout le monde. Pourquoi ? Parce que, en principe, c'est le règlement des CADA et un règlement qui se comprend d'ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'héberger d'autres personnes. Le CADA, c'est un accord, c'est un contrat passé avec l'État, mais qui est un accord et un contrat personnel. Et donc, l'hébergeant peut se faire lui aussi virer du CADA. Alors, c'est un moyen de pression supplémentaire pour l'administration de montrer sa toute-puissance, tout simplement. On tombe ici sur un phénomène de... On se demande s'ils ne sont pas monomaniaques dans l'État. C'est qu'en 93, l'État a viré la royauté, l'État a viré l'État c'est moi de Louis XIV, mais c'est maintenant l'administration qui est toute puissante et qui a toujours raison, même quand elle a tort.
Vous parliez, Bruno Manini, de la rue Rouchy, de l'hébergement d'urgence. Donc c'est le 115, en fait. Les personnes en difficulté d'hébergement appellent le 115 et peuvent, s'il reste de la place, être hébergées rue Rouchy. On va juste expliquer ce que c'est que la rue Rouchy. Ce sont des Algéco où les gens arrivent à 21h.
Ça commence à rentrer à
20h30.
Et puis, il y a un tri en fonction de familles qui sont ou non prioritaires. C'est le 115 qui essaye de gérer en fonction, au moins mal. Bon, il fait son boulot comme il peut avec les places qu'il a. À 22h, fermeture des portes. Bon, il y a un travailleur social qui accueille à peu près les gens le soir, financé, enfin embauché par l'abri de la Providence,
et puis
qui part à 10h30 ou à 11h du soir. Après, il reste des vigiles sur place, les gens peuvent dormir, il y a des grandes chambrées collectives, les gens peuvent dormir sur des lits de camp, réveillés à 6h30 par les vigiles. L'an dernier, il y avait des chiens pour réveiller les familles, c'est pratique, enfin un drôle d'ambiance. Bon. 6h30, réveil, tout le monde dehors à 7h30, et on voit des femmes, des enfants qui sortent avec éventuellement une poussette à 7h30, les gosses qui se frottent les yeux. Il n'y a pas de petit déjeuner, on n'a pas le droit de prendre aucun repas dans ces hébergements-là.
Oui.
Et les chiffres de l'abri de la Providence sont de dire, chaque soir, septembre-octobre, le 115 refuse l'hébergement d'urgence à environ 33 personnes qui demandent et qui ne sont pas accueillis. Chaque soir, en moyenne, 3 familles non accueillies, et chaque soir, en moyenne, 4-5 enfants qui ne sont pas hébergés rue Rouchy. Tout le monde est à la rue toute la journée, puisqu'après 7h30, c'est fermé. On ne peut laisser aucune affaire, il faut repartir avec son petit sac, son petit baluchon. Et donc les 28 enfants qui sont accueillis en moyenne rue Rouchy et les 4 ou 5 qui ne sont pas accueillis, ça fait une trentaine d'enfants qui sont à la rue toute la journée, en plus d'être à la rue la nuit pour une partie.
Je vous propose d'écouter M. François Burdelon, le préfet. Oui, Pierre-Jean ?
Oui, un dernier mot. Il faut quand même préciser que le travailleur social qui était en charge de Rouchy a dénoncé vigoureusement auprès de ses hiérarchies d'abord et ensuite publiquement les conditions de son travail et les conditions de vie des occupants. Alors moi, je voudrais également poser une question au préfet. Bah, il a démissionné d'ailleurs, il s'est mis en droit de retrait. Je poserai une question à ceux qui ont initié Rouchy. Une femme enceinte, une femme qui allaite son bébé, comment elle fait ? Puisqu'elle n'a pas le droit de le nourrir. Elle doit le laisser crever de faim ou... Il faudrait qu'on m'explique.
Il y avait des douches, rue Rouchy, manque de chance, la chaudière n'a pas marché pendant 2 mois. Donc il y avait de l'eau froide pour se laver.
Je vous propose d'écouter à présent François Burdéron, donc le préfet, à qui j'ai posé quelques questions ce matin au téléphone. Il y avait eu une décision de justice qui avait ordonné l'évacuation en août 2013 et ce n'est qu'en le 11 septembre 2014 que les propriétaires, à savoir la mairie et la SARA, ont demandé le recours de la force publique pour l'exécution du jugement. Comment ça se passe dans ce cas-là ? La préfecture applique, tout simplement ?
Alors, d'abord, un mot d'explication sur le délai. Enfin, la mairie pourrait d'ailleurs vous le donner elle-même. Le nouveau maire d'Angers souhaitait que les dispositions d'une circulaire qui prévoit un bilan social des occupants d'un squat avant l'évacuation, que cette circulaire soit appliquée. Il m'a été un peu long de trouver le partenaire à un tarif raisonnable capable de faire ce bilan social. En l'occurrence, ça a été Adoma, et ils ont réalisé le bilan social au printemps. J'en ai eu la disposition à la fin du mois de juillet. C'est en partie ce qui explique, je pense, le temps qu'a mis, en tout cas, la nouvelle municipalité, élue en mars, pour demander le concours de la force publique. Moi, le métier du préfet consiste à donner les forces nécessaires pour faire exécuter cette décision de justice, si elle ne l'a pas été spontanément. Il faut savoir que si le préfet ne donne pas le concours de la force publique, il engage la responsabilité de l'État, la responsabilité financière, et que dans ce cas, le propriétaire, en l'occurrence la ville ou la société dépendant d'elle, sont tout à fait en droit de demander une indemnisation à l'État pour non-exécution de la décision de justice.
Alors, vous avez évoqué les bilans sociaux menés par Adoma. L'idée aussi, c'était de trouver des solutions pour les personnes qui, pour répondre aux besoins des personnes qui étaient dans ce squat. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées et où sont les personnes aujourd'hui ?
Alors, il y a des personnes pour lesquelles il y a des solutions possibles et puis il y en a d'autres pour lesquelles il y a des solutions qui se trouvent au coup par coup en fonction de leur capacité à elles de se débrouiller. Je résume. Vous avez des gens dans le squat qui étaient en situation illégale en France, parce qu'ils avaient demandé l'asile, qui avait été refusé pour des raisons diverses, et qui devaient retourner dans leur pays d'origine. Donc on les héberge dans ce cas-là temporairement, jusqu'à ce qu'ils soient reconduits dans leur pays d'origine. Il y en a qui bénéficient d'une protection. Dans ce cas-là, ils ont droit à un logement et l'étude a permis d'ailleurs de préparer le passage dans un logement ou en tout cas une solution d'hébergement de type logement. Et puis alors, il y a des personnes, c'était le plus grand nombre, qui ne présentent aucune caractéristique particulière. Alors, ceux qui sont en attente d'une réponse de demande d'asile, eh bien, ils ont accès, en fonction des possibilités, à l'hébergement de base, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent par le 115 pour essayer de trouver une place d'hébergement. Pour ceux qui sont des déboutés du droit d'asile, qui n'ont plus de droit à rester sur le territoire, mais qui ne sont pas encore expulsables, ils doivent repartir dans leur pays. Puisque les décisions de justice ont conclu qu'ils n'avaient aucun droit à rester en France, la France ne leur fournit pas d'hébergement.
Vous évoquiez les personnes qui doivent se loger auprès du 115. La coordination Migrants 49 avance le chiffre de 33 personnes en moyenne qui sont refusées chaque soir au 115 et ajoute que ça rappelle la volonté affichée du préfet de Maine-et-Loire de ne pas vouloir offrir des places supplémentaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
C'est pas tout à fait une volonté affichée. C'est surtout les moyens qui ne le permettent pas. Ouvrir des places, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent que nous versons, d'ailleurs, aux associations qui qui sont les opérateurs, les associations défendent les migrants, pour certaines d'entre elles, pas toutes, mais certaines, sont celles qui se font financer par l'État pour fournir des places à des demandeurs. Pour cela, il faut payer. Et les crédits sont limités. Donc, sont limités, mais à un niveau d'ailleurs élevé, parce que le Maine-et-Loire a un très grand nombre déjà de places, près de 900 places dans le département. C'est quand même beaucoup par rapport à d'autres départements où il n'y en a quasiment pas. Et donc la politique nationale dans ce domaine consiste petit à petit à répartir sur le territoire national la charge financière et la charge effective de l'accueil des demandeurs d'asile, et donc elle est poussée à aller plutôt ailleurs. Et donc à créer des places dans des départements où il y en a très peu, et à supprimer ou en tout cas limiter les places dans des départements comme le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, où nous avons beaucoup de demandeurs. Donc c'est pas, contrairement à ce que dit la coordination des migrants, que je ne veux pas créer, c'est que je n'ai pas les crédits me permettant d'ouvrir plus de places, et cela correspond non pas tellement à une volonté gouvernementale de réduire les crédits en la matière, mais surtout de répartir un peu mieux la charge sur le territoire.
Vous écoutez le Sous-marin sur Radio Campus Angers. On parle de la situation d'hébergement des migrants. Et à l'instant, c'était le préfet François Bourdeyron qui évoque donc un manque de moyens et une volonté de l'État de répartir les migrants sur tout le territoire. Le Maine-et-Loire, selon lui, serait engorgé. Et donc, il s'agirait d'aiguiller les migrants vers d'autres départements. Pierre-Jean et Bruno Manini, quelle est votre réaction à cette dernière partie sur le fait que le Maine-et-Loire serait engorgé et que l'État manque de moyens?
Alors ça pose quand même problème, parce que dans la directive accueil de l'Europe, il est dit que exceptionnellement l'État peut trouver d'autres solutions d'hébergement que le logement, mais que de toute façon ces conditions d'accueil doivent être au minimum au niveau du logement. Parce que les conditions matérielles d'accueil qui sont fixées par la directive européenne sont très strictes. Et elles sont bien minimum. C'est-à-dire qu'une seule condition qui est violée, c'est toutes les conditions qui sont violées. C'est-à-dire qu'il y a une atteinte à une liberté fondamentale qui est celle de demander l'asile. Bon, par rapport à ce que dit le préfet, c'est quand même fort de café, parce que ça fait quand même maintenant, depuis 2008 donc, ça fait donc 6 ans qu'on est dans l'urgence. Alors, pour un État réactif qui est capable de mobiliser des troupes et de les envoyer en Irak en l'espace d'une semaine, ne pas être capable de se donner les moyens, aussi bien financiers que logistiques, de quadriller le territoire afin que tous les demandeurs d'asile aient un logement, pour respecter le droit, pour respecter la légalité, eh ben franchement, c'est vraiment des incapables, hein. Là, ils se foutent de notre gueule. Je m'excuse, c'est peut-être un peu trivial, mais c'est la seule façon qu'on trouve de parler par rapport à ça.
Bruno Manini, votre réaction sur cette question d'un département qui serait engorgé ?
Le préfet n'a pas indiqué, mais il y a effectivement une baisse de 120 places d'hébergement demandeurs d'asile sur le département de 2014 sur 2015. Donc la situation va s'aggraver. Alors que sur le fond, il y a des milliers de logements libres sur Angers. Là-dessus, je rejoins Pierre-Jean, pas surtout, mais là-dessus, c'est vrai. Donc il y a de la vacance, y compris dans le parc public, largement. Donc le bon sens voudrait qu'il y ait de la mobilité, de l'hébergement vers le logement social, parc public. Bon, ouais. Et puis que du coup il y ait de la place qui soit créée dans l'hébergement. Quand on voit des réfugiés qui sont en hébergement, c'est aberrant, ils ont vocation à aller dans le parc public, ces gens-là. Bon, donc tout est là, les infrastructures, les financements, tout est là, il s'agit juste de le gérer. Après, c'est la différence entre une politique et des personnes. Il y a une politique nationale, bon, qui devrait être cohérente entre les engagements de la France et les moyens qu'elle met, ou sinon c'est à désespérer de la démocratie. Bon, donc il y a une politique, mais encore derrière il y a des femmes, ceux que vous avez interviewés, ceux que vous avez rencontrés, comment elles font? Et quand on tolère que des femmes et des enfants soient sur nos trottoirs à la fin du mois d'octobre, début novembre à la Toussaint, ça veut dire qu'est-ce qu'on va tolérer demain pour notre voisin? quel qu'il soit, pour nos enfants, pour nos anciens. Qu'est-ce qu'on va tolérer demain en termes de délitement de notre vivre ensemble? C'est ça qui est en cause. Ce n'est pas seulement la situation de ces personnes, c'est notre situation à tous qui sommes sur la place d'Angers. Qu'est-ce qu'on va tolérer comme atteinte et comme atteinte et personnes qui s'abîment, qui baissent, qui verdissent, qui deviennent gris, qui se mettent à s'engueuler, qui se mettent à battre leurs enfants parce que situation impossible, intenable.
Quelle suite est-ce que vous voulez vous allez donner à ce combat dans les semaines, les mois qui arrivent, Pierre-Jean, en termes de relogement peut-être des personnes qui étaient rue du Port de Lancre?
C'est simple, ça fait déjà quelques années que nous avons proposé que les trois pouvoirs centraux, c'est-à-dire conseil général, mairie, préfecture, s'assoient à une table avec les associations et commencent à dispatcher tous les logements vides sur Angers. Et il y en a un paquet, en sachant que la mairie est le principal propriétaire foncier immobilier sur Angers. Bon, même si c'est que pour quelques mois, même si c'est pour 2 ou 3 ans, eux, c'est tous les soirs que ça devient vital de trouver un hébergement. Et ils n'en trouvent pas. Leur journée, ils les passent à ça. C'est quand même scandaleux. Ils n'ont même plus le temps de s'occuper de leur demande d'asile, ils n'ont même plus le temps de s'occuper de leur démarche administrative, parce qu'ils sont obnubilés par ça. Donc, qu'ils s'assoient autour d'une table et qu'on commence à discuter sur la répartition. Qu'est-ce qu'il y aura comme dépenses? C'est des logements qui sont vides, qui ne servent ni à l'habitat, ni comme rente de capital. C'est-à-dire ni comme valeur d'usage, ni comme valeur marchande. Alors qu'on arrête de dire n'importe quoi. Ces logements, ils seront tout aussi bien à être occupés par des gens. Ça mettra des gens à l'abri pour quelques mois, ne serait-ce que pour quelques mois. Et il suffit de à partir du moment où ces logements sont affectés à une fonction particulière, il suffit de faire un turnover avec d'autres logements qui sont vides, etc. Ce qui fait que tout le monde sera à l'abri. Ce qui fait qu'on ne gaspillera plus les crédits dans des hôtels. Voilà comment on peut résoudre les problèmes. Il faut avoir un tout petit peu d'imagination. En 68, on disait l'imagination au pouvoir. Ben moi, je revendique l'imagination au pouvoir. Mais au pouvoir pour le bien des gens. Pas pour chercher comment leur nuire. Parce qu'en ce moment, la politique qui est appliquée à l'immigration, c'est une politique qui cherche à leur nuire au maximum. Tout ça pour satisfaire des a priori politiques, pour satisfaire un penchant tout à fait désagréable qui consiste à dire « mon voisin, il n'est pas bien, j'en veux pas, je le fous dehors ». Voilà comment ça se passe à l'heure actuelle. Eh bien ça, il faut que ça soit fini. Voilà.
Bruno Manini.
Alors moi, si j'ai un message à passer à la préfecture, c'est que la préfecture, elle cesse de harceler les demandeurs d'asile. Elle cesse de les considérer comme des voyous en puissance ou même comme des voyous tout court. Voilà, c'est le seul message que j'ai à faire passer. Et là, on pourra peut-être discuter et construire ensemble.
Bruno Manini pour la CIMAD Anjou et la coordination migrants.
Les migrants sont beaucoup plus en danger qu'ils ne sont dangereux. C'est absolument clair, évident. Ils se tiennent à carreau, ils font pas l'ombre d'un écart. Bon. Après, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Eh bien, on va continuer à leur dire, à leur montrer qu'on est avec eux, à leur côté. On va continuer à faire des soupes avec eux, des petits déjeuners, comme on les a fait cet hiver. Bon, on va continuer à leur dire qu'on n'est pas d'accord avec le sort qu'il leur est réservé. Et ça leur change un peu quelque chose, d'après ce qu'ils nous le disent. De voir que tous les Français ne sont pas unanimes. Et continuer à leur affirmer qu'il y a de nombreux Français, au-delà de nous, qui ne sont pas d'accord avec le sort qu'il leur est fait. Et puis, on va continuer à faire des référés, on va continuer à employer les moyens juridiques. Et puis on va commencer à préparer aussi la période proche dans quelques années où il va bien falloir qu'on fasse rentrer des gens parce qu'on n'aura pas assez de main d'œuvre pour s'occuper de nos anciens, de nos jeunes, de nos espaces verts et ainsi de suite. Il y a actuellement des métiers en tension, il y a actuellement un certain nombre de postes qui ne sont pas pourvus. Vous voulez qu'on peut en parler sur dans la volaille, dans la viande, dans le nettoyage, dans la récupération? Il y a des postes non pourvus.
Merci beaucoup Bruno Manini et Pierre-Jean Bourdon d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Angers ce soir sur ce sujet.
Je peux un dernier mot?
Très rapide.
Obligé maintenant de rouvrir des squats parce qu'il y a des gens à la rue et qui sont sous les ponts et ben, ils sont comme nous, ils n'aiment pas.
C'était le dernier mot de Pierre-Jean.
Merci, Bardot. Bonsoir.
Merci beaucoup. Tout de suite, on écoute.
Merci, bonsoir.
Ézéchiel avec Anonymous sur Radio Campus Angers.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Pour la perme de ce soir, direction la Doutre et l'éternel Bœuf Blues du T-Rock Coco à partir de 21h. Le T-Rock Coco ou Radio Campus Angers posera ses micros un vendredi par mois à partir du 28 novembre prochain. On termine cette émission avec l'éternel Bulle Sonore. Michel fait se promener les micros autour du monde les lundis soirs à 20h sur le 103 FM, extrait de l'émission Ostros Mundos d'hier soir où Julie raconte Sarajevo.
Alors, ce qui vous a pas mal marqué, vous m'en avez déjà parlé, c'est l'aspect très éclectique, multiculturel qu'on peut observer en Bosnie par rapport à d'autres pays que vous avez pu voir en Europe de l'Est.
Bah, c'est que par rapport à d'autres pays dans les Balkans, c'est un des seuls pays où... où il y a des traces, par exemple, enfin où il y a des mosquées, il y a des traces en fait de l'Orient qui sont beaucoup plus présentes. Et du coup, ouais, ça donne un ça donne une espèce de mélange de choses où du coup on a l'impression que c'est peut-être plus multiculturel. On ressent plus cet aspect-là.
Tu parles de traces. Est-ce que tu peux me donner des exemples, des trucs visibles?
Des traces. Bah alors après là, c'est peut-être pas des traces de l'interculturalité. C'est plus la Bosnie, c'est un pays qui a énormément souffert pendant la guerre des Balkans et il y a des traces qui sont quand même encore visibles. Il y a plein de bâtiments qui sont détruits. On est allé à Mostar, dans le sud, et à l'université, la moitié de l'université, les bâtiments ont été bombardés et ça se voit en fait. Enfin, c'est toujours là, la moitié de l'université, c'est des ruines. Et après, même à Sarajevo, il y a des bâtiments, il y a des impacts de balles, il y a plein de choses.
Vous pouvez réécouter la totalité du programme sur le www.radiocampusangers.com. Dans un instant, dès 20h, retrouvez le rendez-vous mensuel du Parlement européen à Bruxelles par les journalistes de Radio Campus France. Ce deuxième rendez-vous de la saison a été enregistré le mercredi 19 octobre au programme Le TAFTA, l'éducation et la jeunesse, ou encore les auditions du commissaire européen de l'économie, Pierre Moscovici. Nous, on se retrouve demain dès 19h. Le sous-marin accueillera Cinéma d'Afrique pour parler du projet BLED et du festival qui aura lieu au printemps 2015. Merci à Thomas qui a co-préparé cette émission et à David et Rémi pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous!
Trouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.